Bonsoir. Notre émission de ce jour est la première d'une série de trois consacrée à Georges Goubier. Georges Goubier fait partie de ces 1 343 000 jeunes Français appelés entre 1956 et 1962 qui ont été envoyés combattre en Algérie, dont plus de 13 000 ne reviendront pas vivants. Né à Saint-Étienne, rien ne prédestinait Georges Goubier à devenir, l'âge adulte arrivant, un guerrier colonial, ce que la République du moment décida de faire de lui. Aujourd'hui, 55 ans après, il souhaite témoigner et parler de cette expérience et il a bien voulu répondre à notre invitation à réaliser un entretien autour de son histoire. Dans la première partie de cet entretien, nous évoquons son enfance pendant la guerre, sa jeunesse et son insertion dans le monde du travail, où il devint un jeune ouvrier métallurgiste déjà sensible au syndicalisme, jusqu'au moment où il va être, à 20 ans, incorporé et passer ses 4 premiers mois de classe à Chambéry dans les chasseurs alpins. Au fil de ses propos, des illustrations musicales viendront ponctuer son récit. Bonne écoute.
C'est une valse au long soupir, une valse qu'on danse pour s'endormir, les soirs d'hôtel, les soirs de gare, les soirs à l'hôtel de la gare. On tourne, on vire et on soupire, on se retourne, on ressoupire, la nuit est blanche. La nuit est pleine de trains qui partent, de trains qui freinent. C'est une valse ou de guerre lasse. On s'abandonne au temps qui passe. Quand même le temps n'a plus sommeil que dans le tic-tac du réveil. On compte les heures, on compte son âge. On pense au train et au voyage, à des trains bleus, à des trains gris, qui sont passés, qui sont partis. On pense au train qu'on a su prendre, au train qu'on n'a pas pu attendre. Et de train en train, on finit par se raconter des bouts de sa vie. Des bouts de sa vie, y en a qui traînent partout, même dans des gares lointaines, bercés par des trains balance sur des aiguillages qui grincent. Il y en a qui traînent le long des quais à la traîne des gens qu'on aimait, qu'on embrassait, mais que le train quand même emportait. Des bouts de sa vie, il y en a qui hantent les halls des gares, les salles d'attente, où le temps de quelques pas perdus, on a connu des inconnus. Il y en a qui causent vers la buvette, où le temps d'un verre, d'une cigarette. Entre deux trains, on a failli presque se trouver un ami. Des bouts de sa vie, il y en a qui dorment, où tous les voyageurs s'endorment. Entre deux villes, au petit matin, la peau grise comme une peau de chagrin. Il y en a qui veillent, il y en a qui passent dans les sleepings en première classe, comme pour y voir une chimère, une belle madone, une étrangère. Et puis il y a ceux qui est du départ, qui prennent
train des trains, beau comme l'espoir, les premières fois de délivrance, les premières fois hors de l'enfance. Et puis à ceux qu'est du retour, qui désembarquent le cœur lourd et qui s'en vont par l'autobus à la maison. Au terminus des trains, c'est fou ce qu'on en a pris, des tas de trains bleus, des tas de trains gris. On les reprend parfois la nuit, quand on se raconte des bouts de sa vie. Des bouts de sa vie, y en a des tas, on les aime ou on les aime pas. Y en a qui pleurent, y en a qui rient. Faut faire avec, surtout la nuit, tout près d'une gare. La nuit à l'hôtel de la gare, quand on dort pas et qu'on soupire, qu'on cherche en vain à s'endormir. Quand on dort pas et qu'on soupire, qu'on cherche en vain à s'endormir, et qu'on s'endort finalement au petit matin comme un enfant.
Georges Goubier, bonjour. Je vous remercie de me recevoir pour Radio Canu pour un entretien autour de votre expérience de vie et plus particulièrement de votre expérience à travers la guerre d'Algérie, de soldats. Mais on va peut-être repartir du début de votre naissance, de votre enfance. Vous êtes né à Saint-Étienne ?
Oui, absolument. Alors, bonjour d'abord. Oui, tout le plaisir est pour moi aussi de participer à vos travaux, à votre radio. Oui, je suis tout à fait stéphanois. Je suis natif ici dans ce quartier du Soleil. Et j'y ai vécu toute mon enfance, mon adolescence, et jusqu'au moment de partir en Algérie.
Vos parents faisaient quoi ?
Alors, mon père était dans la mécanique. Ici, ce quartier est un quartier très ouvrier. Au moment où je suis né, c'est-à-dire en 1936, il y avait énormément de puits de mine ici. Il y avait beaucoup de puits de mine et de la métallurgie, essentiellement. Bon, d'autres personnes, un peu de textile, mais enfin, essentiellement, c'était ces deux professions qui étaient dominantes. Voilà, j'ai vécu dans ce quartier jusqu'à l'âge de 20 ans, et puis ensuite...
Mais je reviens encore. Votre mère, elle travaillait, elle ?
Alors, ma mère, faisait des petits travaux. Elle a travaillé à différents endroits. Mmh. Elle faisait du service, du ménage, ces dernières années, avant de prendre la retraite, elle a travaillé dans le tissu, dans la rubannerie. Mais voilà, oui, elle n'avait pas un métier particulier. Mais nous étions trois enfants aussi.
Trois enfants. C'était vous l'aîné ?
Et c'était moi l'aîné, oui.
Alors l'école, ça s'est passé comment ? Dans le quartier aussi, j'imagine ?
Alors l'école, ça s'est passé dans le quartier, bien sûr, mais entrecoupé par la guerre. Ça n'a pas été facile parce que, quand j'ai atteint l'âge de 7 ans, les menaces nazies étaient de plus en plus fortes. Et nous étions plusieurs enfants dont les parents se disaient il vaudrait peut-être mieux les mettre à la campagne. Donc mes parents m'ont mis à la campagne chez des paysans à une trentaine de kilomètres d'ici. Et donc, quand je suis arrivé, alors pour rester sur l'école, quand je suis arrivé à l'école de Saint-Jean-sur-les-Mieux, où j'étais, comme nous étions nombreux, la maîtresse m'a mis tout au fond de la classe. Elle m'a donné un livre, elle m'a dit « Allez, lis-moi un petit peu ». Alors j'ai commencé de lire, et puis je lisais pas très bien, j'avais 7 ans. Bon, on verra ça après. Bon, elle m'a mis au fond. Et puis, elle s'occupait de moi, plus ou moins, quoi. C'était difficile avec la guerre. Et puis, je pense que le couple d'instituteurs qui était dans cette école était plus ou moins lié avec les maquisards. Donc il y avait des moments où bon la classe était arrêtée, disons que quand je suis revenu ici, je ne savais presque plus rien, quoi. Il a fallu tout repartir à zéro.
Et quand vous dites les menaces en 43 nazis, c'était quoi? Parce que vous n'étiez pas juif, vous n'étiez pas directement menacé ici?
Non, on n'était pas menacé, mais mes parents avaient peur de la guerre, enfin comme tout le monde, parce qu'on savait bien que il y avait quand même des campements allemands qui étaient tout proches là, tout proches de chez nous. Et il y avait quand même des moments du tirage, hein. Les Allemands, autant que je m'en souvienne, de temps en temps, pirataient un petit peu les commerces stéphanois. Et puis je me souviens très bien, il y avait le couvre-feu. Les soirs, donc, les gens n'avaient pas le droit de mettre la lumière. Alors, donc, ils avaient tapissé leur vitrage par des papiers un peu épais. Et je me souviens notamment que, par exemple, les soirs, avant d'aller se coucher, parfois, on entendait les bottes nazies en bas de chez nous. Et mon père disait à ma mère, ils cherchent encore les Italiens. Parce qu'il y avait des Italiens qui avaient quitté leur pays en désaccord avec Mussolini. Et donc, ces gens-là se faisaient arrêter. Voilà, donc ils allaient un peu dans les couloirs de nos cités pour vérifier les noms. Et puis, tous ceux qui avaient des consonances italiennes, ils y avaient droit, quoi.
Bandiera nera la vogliamo, no! Bandiera nera la vogliamo, no! Perché è il simbolo della galera. Bandiera nera la vogliamo, no! Perché è il simbolo della galera. Bandiera nera la vogliamo, no! Bandiera bianca la vogliamo, no! Bandiera bianca la vogliamo, no! Perché è il simbolo dell'ignoranza. Bandiera bianca la vogliamo, no! Perché è il simbolo dell'ignoranza. Bandiera bianca la vogliamo, no! Bandiera rossa la vogliamo, sì! Bandiera rossa la vogliamo, sì! Perché è il simbolo della riscossa. Bandiera rossa la vogliamo, sì. Perché è il simbolo della riscossa. Bandiera rossa la vogliamo, sì.
Donc on avait peur, oui, on avait peur.
C'était pas des bombardements que vous craignez?
Eh bien, le bombardement aussi.
En zone industrielle, ça aurait pu être le cas.
Je pense qu'ils y ont... mes parents ont dû en entendre parler, puisque le bombardement, le gros bombardement qu'il y a eu sur Saint-Étienne est intervenu au moment où j'étais là-bas, à la campagne.
Quand même.
Et là, le quartier a beaucoup dérouillé. Hein. Il y a eu de nombreux immeubles qui ont été détruits, et il y a eu plusieurs, sur le quartier, il y a eu plusieurs centaines de morts.
Ah oui?
Ah oui, oui.
C'était à quelle date, vous savez?
C'était le 26 mai 1944.
Donc retour à Saint-Étienne tout de suite après la guerre, 44-45?
Voilà, oui, à l'automne 44, oui. Et alors quand je suis revenu, moi j'étais à l'école du Trèves, là, donc il y avait plusieurs écoles là sur le quartier. Donc j'étais à l'école qui était la plus basse, là, on appelle l'école du Trèves. Et les murs ni le toit n'avaient pas été bombardés, mais les vitres, les vitrages, toutes les fenêtres avaient été essoufflées, donc il n'y avait plus de fenêtres. Et donc pendant quelques temps, on va dire peut-être 2 mois, je suis allé à une autre école à Saint-Étienne. Voilà, ce qui n'a pas facilité les choses, quoi.
Et vous êtes sorti de cette scolarité avec certificat d'études?
Oui, quand même.
Quand même?
Quand même, oui.
À quel âge?
Malgré
l'âge
tout, ben, j'ai passé à l'âge normal. Mmh. On le passait à 14 ans, le certificat d'études, oui. Oui. Puis ensuite, je suis allé en apprentissage. Enfin, je suis allé à l'École nationale professionnelle, Étienne Mimard. Et donc, j'y suis resté 3 ans et j'ai passé un CRP d'ajusteur mécanicien.
Et vous embauchez aussitôt ?
Et j'ai embauché aussitôt, oui, oui. Première entreprise, l'entreprise Murat. Une petite entreprise de quelques 50 à 80 salariés, je ne sais plus exactement, qui faisait des outils de précision pour la mécanique, quoi, pieds à coulisses, palmaires, toutes ces choses-là. Mais parallèlement à ça, ils faisaient aussi des pièces de série, et moi j'étais chargé de faire de la rectification pour des fourchettes de débrayage pour motobécane. Voilà. Pour les boîtes de vitesse de motobécane.
Et vous êtes resté longtemps dans cette...
Non, j'y suis pas. Je suis resté à peu près un an. Là, j'ai eu plusieurs histoires là, sur une année là, dans cette entreprise. Je peux vous en raconter une si vous voulez. Ben, d'abord, il y a eu des grèves. Alors, il y avait peut-être 2 ou 3 mois que j'étais dans cette entreprise. Et il y a eu une assez longue grève qui a duré 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus. Alors j'allais assister à l'amicale laïque, j'allais assister aux réunions qui étaient organisées par le syndicat. Et puis bon, voilà quoi, donc ça portait essentiellement sur les salaires. Peut-être le temps de travail aussi, je sais pas.
On était en quelle année là ?
Eh bien quand je suis sorti de l'école professionnelle, donc j'avais 17 ans, donc... On devait être en 53. Ouais. 53, oui. Et donc, voilà, donc on a fait ces grèves. Et puis ensuite, quelques temps après, le fils du patron, qui était un petit fils à papa, quoi, il s'occupait un peu de tout. Et un jour, il vient me voir. Et il a fait ça aussi avec 2 ou 3 autres jeunes de mon âge, qui étions là-bas, puis il me dit, lundi, ça ne sera pas la peine de venir, tu ne viens plus, on n'a plus besoin de vous. Voilà, tu pourras laisser tes bleus à la maison, on n'a plus besoin de toi.
Grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flamme orange dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fais grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons non sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coule cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et main d'or. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Alors, comme je m'étais syndiqué, je suis allé voir le délégué. Puis j'ai dit, voilà, bah, il nous dit qu'il nous met à la porte, quoi, hein, carrément. Hein. Donc, il nous avait donné 3 jours. Il avait dû me dire ça le mercredi. Et voilà, et donc, il fallait que le vendredi soir, tout soit terminé. Alors, le délégué nous invite, là, les 3 ou 4 jeunes de 18 ans que nous étions, 17-18 ans. Et il nous dit, écoutez les gars, vous êtes gonflés, nous on fera ce que tu nous dis, eh bien lundi vous revenez avec vos bleus sous le bras, comme si de rien n'était. Bon d'accord, et donc on obéit au délégué, et on se repointe le matin à 7h30, je crois qu'on embauchait à 7h30, on se pointe à notre travail, et je me mets au travail comme si de rien n'était. Et bien sûr quand le fils du patron arrive et puis qu'il nous voit, alors... Il pique une colère rouge comme un coquelicot. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi vous êtes là? On n'a plus besoin de vous, je vous l'avais dit. Ah ben nous, écoutez, c'est le délégué qui nous a dit de venir. Mais il n'a rien à faire, ce délégué, mais de quoi il s'occupe? Bon, une crise. Et quand les délégués ont vu ça, ils ont dit, on coupe le courant. Ils ont coupé le courant, tout arrêté. Et donc le patron a bien été obligé de recevoir les délégués, donc il les a reçus. Ils ont parlementé pendant une demi-heure, et quand ils sont redescendus, ils ont dit « Les jeunes, vous reprenez votre travail, c'est terminé. » Et voilà, j'ai travaillé. Ça, c'était mes premières actions syndicalistes.
L'objet de la négociation,
hein? Ah, j'ai pas su dans le détail comment ça s'est passé, mais ce que j'ai su, c'est qu'on reprenait le travail.
Ils avaient plus besoin de vous parce que c'était un problème de charge de travail, ou c'est parce qu'ils vous avaient identifié comme... déjà syndiqué?
Je pense pas qu'ils nous avaient identifiés. On n'était pas des violents, on n'était pas devenus syndicalistes à l'âge de 17 ans, hein, c'est pas possible. Mais bon, évidemment, on suivait le syndicat, quoi. Peut-être que c'était par représailles, oui, c'est bien possible.
Je vais vous dire les gars ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord parler avec les potes et faire une section syndicale. Tout solidaire, ce sera pas long pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever. Tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. Discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Le patron futé comme un bison trouvera toujours le compte service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire au débile que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver. Mettons que votre boulot soit l'enfer, avec un salaire de misère. Le patron se met à gueuler, fainéant, pas de rallonge, enfoiré. Mais regardant par la fenêtre, il voit des milliers de gars unis. Salaud, affameur, négrier, il bat sa femme, on peut le parier. L'égal plus dur, il reste à faire, tout sera bon pour vous foutre en l'air. La police, la garde nationale, c'est un crime, une carte syndicale. Vos meetings seront perturbés, on matraquera tout ce qui bouge. Sale bande de rouges, anti-américains, espions japonais, saboteurs de la défense nationale. Chez Ford ce qu'ils ont compris, et chez Renault ce qu'ils ont compris, et chez Lip ce qu'ils ont compris, et chez Rodia CETA aussi, aux joints français ce qu'ils ont compris, un peu partout ce qu'on a compris. Si on se laisse pas faire par les fachos, si on se laisse pas faire par les provocateurs, si on se laisse pas faire par les milices, si on se laisse pas faire par les jaunes, par les flics, par le gouvernement, si on se laisse pas baiser par les patrons, eh ben les gars, on gagnera. Enfin, ce que je vous en dis, prenez-le comme vous voulez, mais faites-le.
Ce que je voulais vous demander, cette fibre syndicale, donc vous l'avez eue depuis ce moment-là, pas avant quand même. Quand vous suiviez les réunions des grévistes, c'était par curiosité ou c'était déjà plus que ça?
Non, ça m'a renforcé un peu dans mon idée, ça. Mais quand j'avais 13-14 ans, disons que je traînais un peu dans les rues, je faisais n'importe quoi. Et mon père allait jouer aux boules au cercle catholique, ici. Et il me disait, mais il y a aussi la Sainte-Barbe qui joue au foot, pourquoi tu t'inscris pas à la Sainte-Barbe? Il faut que tu fasses quelque chose, tu vas pas rester à traîner. Bon, enfin bref, mon père m'a un peu poussé dans cette voie-là. Et au lieu d'aller à la Sainte-Barbe du Soleil jouer au foot, je suis plutôt allé à la JOC. Il y avait d'autres jeunes plus âgés que moi, qui m'ont dit, viens, tu verras. Alors, c'était un peu le début du foyer des jeunes. Il y avait des baby-foot, il y avait un petit peu, j'allais là. Et puis, progressivement, j'ai participé à des réunions. Puis, j'ai pris des responsabilités. Après, j'allais contacter d'autres jeunes qui commençaient à travailler aussi. On sortait en groupe. Ça a commencé un petit peu comme ça.
JOC, c'était une fibre sociale quand même.
Oui, ici. Peut-être pas de partout, mais quand même, je crois que d'une manière générale, on peut dire que la JOC a été formatrice. Il y avait deux mouvements. À cette époque, il y avait deux mouvements de jeunesse. Il y avait la JOC, Jeunesse Ouvrière Catholique. Et il y avait l'UJCF qui se réunissait ici à l'Amicale Laïque. Donc c'était les jeunesses communistes. Et donc c'était les deux grands mouvements qui encadraient les jeunes et qui les faisaient réfléchir.
Et vous, par votre famille, vous étiez plutôt côté chrétien ou votre père était communiste, chrétien?
Plutôt. Alors, plutôt chrétien, mais... À l'origine, on était ni l'un ni l'autre. Faut dire que mes parents avaient été un peu marqués. Alors, comme tout le monde, marqués un peu par cette guerre. Et quand la guerre s'est terminée, il y avait l'Union des femmes de France, qui était l'Union des communistes pour les femmes. Voilà. Et qui s'occupait beaucoup des jeunes, et puis disons des familles. Et donc, je me souviens que mon premier arbre de Noël, Donc je l'ai fait dans ce cadre-là avec l'Union des femmes de France. On était plusieurs des cités claires où j'habitais. Là, les cités claires, c'était les cités de l'entreprise où mon père travaillait. Et donc ça a été mon premier véritable arbre de Noël avec du spectacle. Il y avait du guignol, il y avait tout ça, puis il y avait des distributions de papillotes, des chants, tout ça. C'était magnifique pour moi, c'était le tout début, quoi. Je savais pas ce que c'était qu'un arbre de Noël, quoi. Parce qu'on faisait Noël à la maison, mais c'était rudimentaire. On mettait nos pantoufles et puis on avait un petit jeu avec une orange. Voilà, c'était ça, quoi. Je veux pas faire du misérabilisme, mais c'était comme ça.
C'était pas un Noël chrétien, là. Alors, il n'y avait pas de crèche.
Si. Ah, si, il faut que je dise ça, quand même. Si, il y avait toujours... Ah, ma mère tenait... Oui, on faisait une crèche. Et puis, c'était un jeu, après. C'était moi qui le faisais pour mes frères et sœurs. Oui, on avait le papier qui était rangé en haut d'un placard. Et quand arrivait Noël, on sortait le papier, puis les petits santons. Oui, ça, si. Ah si, on avait ça, oui. Mmh.
Du haut du ciel, voilà que descend Papa Noël, sa barbe et ses cheveux blancs. Et moi encore, cet hiver, je trouve qu'il fait froid un peu sur la terre. De ses étoiles, voilà qu'il revient poser un voile sur nos pleurs et nos chagrins et faire rêver les enfants. Mais s'il pouvait dire au passage aux grands d'arrêter les guerres de fusils de mots, pour que durent les cris de joie des marmots, quand ils trouvent dans leurs chaussons des billes, des bateaux, et que demain, quand seront éteints les lampions, les guirlandes et les serpentins, que le cœur de nos enfants de ces merveilles reste plein. Il vient sur terre depuis si longtemps, il nous connaît, il doit savoir qu'on l'attend. Et moi encore, cet hiver, c'est moins lui que toi, tu sais que j'espère. Comme il est sage, comme il est patient, comme les orages ne troublent pas ses élans. En venant pour les petits, pourrait-il dire au papa qui s'ennuie d'arrêter les guerres de fusils de mots, pour que durent les cris de joie des marmots, quand ils trouvent dans leurs chaussons des billes, des bateaux, et que demain, quand seront éteints les lampions, les guirlandes et les serpentins, que le cœur de nos enfants de ces merveilles reste plein. Du ciel, voilà que descend Papa Noël, sa barbe et ses cheveux blancs. Et moi encore, cet hiver, je sais que c'est des histoires de grand-mère. Et qu'à minuit, lorsque tout s'éteint, c'est les papas qui viennent gâter les gamins, comme pour être sympa un soir, comme pour s'excuser de ne pas savoir arrêter les guerres de fusils de mots, pour que durent les cris de joie des marmots, quand ils trouvent dans leurs chaussons des billes, des bateaux, et que demain, quand seront éteints les lampions, les guirlandes et les serpentins, que le cœur de nos enfants de ces merveilles reste plein. Et que demain, quand seront éteints les lampions, les guirlandes et les serpentins, que le cœur de nos enfants de ces merveilles, ou de nos enfants de ces merveilles, de nos enfants, de nos merveilles, reste plein.
Et puis, bon, on n'était pas... J'allais à l'école laïque, hein, j'étais... mon père a été à un moment délégué suppléant de la CGT. Voilà. Mais en même temps, bon,
au grand sans terrain, jamais appartenir au PC, quoi.
Non. Mais progressivement, après, quand mon père allait justement jouer au cercle catholique, bon, on était plus engagé du côté catholique que du côté laïque, voilà.
C'était quoi l'entreprise de votre père, on l'a pas cité?
Alors, c'était... On l'appelait couramment chez Claire, parce que dans le quartier, on disait toujours comme ça. Le patron, à l'origine, s'appelait Monsieur Claire. Et c'était enfin la Stéphanoise de construction, qui fabriquait du matériel pour les mines soviétiques.
Ah bon?
Oui. La plupart du travail qui était fait ici, c'était pour envoyer en Russie, enfin à l'époque l'Union soviétique.
Donc si on revient à vous, donc on était sur cette affaire de grève, enfin de
oui.
licenciement abusif.
Oui.
Vous êtes réintégré et vous restez longtemps.
Alors, après je suis vexé quand même. Je suis vexé de cette attitude du patron, parce que moi je considère que je fais mon boulot, et puis c'est tout, donc il n'avait pas à faire ça. Donc dans les 2 ou 3 mois qui suivent, je cherche une autre boîte. À cette époque, c'était pas difficile, hein. On pouvait passer d'une boîte à l'autre. Hein. Et donc, je suis rentré chez Braillet. C'était aussi une entreprise qui faisait aussi du petit matériel, aussi pour l'outillage, qui était plus petite, qui était dans le centre de la ville, là-bas vers la salle Jeanne d'Arc. Et donc là, j'y ai travaillé aussi à peu près une année. Et ensuite, mon père connaissait un contremaître d'une autre petite entreprise qui était tout proche ici, dans du quartier. Donc, mon père m'a dit, écoute, ce serait mieux que tu reviennes, que tu travailles avec lui. C'est un type qui connaît bien son boulot, ça t'aidera, tout ça. Donc, j'ai repris mes bleus sous le bras. Là, c'est moi qui ai décidé de quitter l'entreprise Braillet pour aller chez Nicolas et Fontvieille, qui était aussi une petite entreprise. Et puis voilà, donc je faisais de la mécanique, je travaillais sur des fraiseuses, voilà. Et puis voilà, et puis je suis arrivé comme ça à l'âge de 20 ans.
Avant de démarrer là, pendant toute cette période, ces 3 usines où vous étiez, l'Algérie, ça représentait quoi pour vous? Rien du tout, ou vous en aviez quand même?
Alors, rien du tout. Tout jusqu'à la Toussaint 54, parce qu'on lisait le journal quand même à la maison. On n'avait pas beaucoup de moyens et ni télévision. Si on avait une radio quand même qui marchait plus ou moins, mais enfin on lisait le journal régulièrement. On y était abonné, ou mon père l'achetait, je ne sais plus. Non, je crois qu'on était abonné, enfin peu importe. Et donc, on a appris les événements, évidemment, qui se passaient en Algérie. Voilà, donc on suivait ça, on en parlait un peu à midi avec mes parents, mais plus ou moins, quoi, comme ça, quoi. Jusqu'au moment où les choses se sont, en 55, où là, on a commencé de parler que les jeunes pourraient bien partir en Algérie pour aller faire de la pacification, comme on disait à l'époque. Enfin bon, mes parents n'étaient pas dupes, comme tous les gens qui avaient des gosses de mon âge, et ils savaient bien que ça voulait dire quand même qu'on y allait avec les fusils, quoi, et que, évidemment ça s'appelait pas une guerre, mais enfin bon, oui, alors on commençait d'en parler un peu, et comme j'étais à la JOC, à la JOC, un jour, quelqu'un m'a dit: si tu veux savoir davantage de choses sur l'Algérie, sur ce qui se passe, viens donc au foyer du soleil tel jour, à telle heure, le soir vers 20h. Et je suis allé au foyer des jeunes et j'ai assisté là à une réunion. Il y avait grosso modo une quarantaine de personnes et il y avait 2 Algériens qui étaient venus là pour nous dire leur position par rapport à l'Algérie, pour nous dire qu'eux, ils avaient opté pour l'Algérie libre, l'Algérie algérienne.
Yeah. سلاما أرض الجدود سلاما أنت العادينا فأنت أنت دار القلوب غرامك طار لنا دينا وإن حواليك مثل الجنود إداد هواك ينادينا فنرى حقوقك مثل الأسود ولو قبضوا بسلافينا
C'est comme ça que j'ai vraiment pris un peu plus conscience de ce qui se passait là-bas. Je le situe à peu près vers la fin 55.
Ah oui.
Oui.
Il devait avoir les flics aux trousses.
Ah ben bien sûr. Ah ben bien sûr. Oui. C'était une réunion clandestine. Oui. Mm. Oui. D'ailleurs, je n'ai jamais su. Après, j'ai recherché. Après que j'ai fait ce film là. J'ai recherché un peu qui avait pu participer à cette réunion, enfin surtout à la réalisation de cette réunion. Et je crois maintenant savoir à peu près qui l'avait monté, mais à l'époque je ne savais pas.
C'est un curé.
Non, parce que je me suis renseigné auprès d'eux, bien sûr. Non. Et celui qui était le plus jeune des curés qui était là, parce qu'ils étaient trois à cette époque. M'a dit qu'il se souvenait pas de cette réunion-là. Ouais. Et je pense que c'est plutôt des gens qui étaient engagés dans des petits mouvements. Je sais pas si vous avez entendu parler du MLO, Mouvement de Libération Ouvrière, Mouvement de Libération Populaire. Il y avait ces petits mouvements-là qui étaient des mouvements plutôt catholiques de gauche. Et plusieurs des militants qui étaient dans ces mouvements, recevaient des Algériens et discutaient avec eux, avaient opté pour aussi l'Algérie algérienne. Et donc ce sont ces gens-là qui avaient organisé la réunion. Mais la JOC, non, on n'avait rien fait. Moi, j'y étais allé individuellement.
Non,
pas du tout. Donc, vous me posez la question si on parlait de l'Algérie avant que je parte, ben voilà, oui. Pour moi, oui, mais je peux pas dire que les jeunes de bon âge en parlaient.
En parler, c'est une chose. Ce que je me demande aussi, c'est quelle vision vous aviez de l'Algérie et puis de ce qu'ils faisaient les Français, quoi. Parce que, si vous en aviez une, parce que c'était peut-être pas un sujet d'intérêt important pour vous jeunes à cette époque-là, à Saint-Étienne.
Je crois que j'avais appris à l'école les colonies, les colonies françaises. Donc je savais que le Maghreb, on n'appelait pas ça le Maghreb à l'époque, disons la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, appartenaient à la France, que c'était des colonies. Voilà, je savais à peu près ça. On avait les images du chocolat pupier, je ne sais pas si le chocolat pupier allait jusque chez vous là-bas. Mais on avait ces images où on pouvait faire le tour du monde avec ces images. Là, on voyait des visages de... Quand il y avait l'Inde, on voyait les Hindous. Et puis donc pour l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, on voyait des Algériens dans leur vie de tous les jours, quoi, avec leur petite... maison en paille, quoi.
Du folklore, quoi.
Oui, du folklore, oui. Et puis les tirailleurs marocains aussi, on les voyait plutôt en soldats, avec leur turban, leur fusil. Voilà la vision un peu qu'on avait des colonies, quoi, et puis des gens...
Les oiseaux sont là, les braves sont là. Car le quatrième, la vaillance même, contenant ses rois le meilleur des enfants de notre patrie, la France chérie, dont les défenseurs sont tous des gens de cœur.
Et dans la dernière, leur valeur guerrière fut en mal combat à cause du trépas de la horde infâme qui sans grande ordonne voulait asservir le pays des mêlés.
Fils de France et fils d'outre-mer, sous les plis du drapeau qui flotte dans les airs, la vaillance les tienne au combat, ils ne partiront pas, car les oies sont là. De Tunis ou de Rabat, de la Brousse ou de Sousse, de la Corse ou de Paris, ce sont les gars du pays.
Fils de France et fils d'outre-mer, tous les pieds du drapeau qui flottent dans les airs, la vaillance, les mêmes combats, ils ne passeront pas, car les soins sont là.
Et vers 18 ans, donc, vous avez commencé à vous dire que vous pourriez bien, l'âge du service militaire arrivant...
Ça a commencé à devenir, vous voyez, vers 19 ans plutôt.
19
oui,
ans.
Oui.
La conscription était à quel âge à ce moment-là?
20 ans.
Ah, c'était 20
Moi,
ans.
Moi, quand j'ai reçu mon, mon appel, là, j'avais 20 ans et quelques mois, oui. Et donc, je suis parti le 4 septembre. 1956. Je ne sais pas si vous l'avez...
Vous êtes parti comment?
Quel état d'esprit?
Dire des déchirements familiaux?
Oui, déchirements familiaux. Alors, avec un tout petit peu d'espoir, c'est ma mère qui avait levé la boîte aux lettres. Et moi, j'arrivais du travail. Ma mère me dit, ah, ça y est, Joe, tu pars, hein. Alors elle me dit, on a de la chance, hein, tu pars à Chambéry. Ah ben oui, ben alors on était contents, oui, on s'est dit, en tout cas, je partirai pas tout de suite en Algérie, donc peut-être que, on sait jamais, hein, peut-être que je pourrais y rester plusieurs mois, et puis pendant ce temps, peut-être bien que les politiques arriveront à régler le problème, donc on avait toujours cet espoir. Et donc voilà, je suis parti le 4 septembre à Chambéry. Au 13e BCA, donc les chasseurs alpins.
Et là,
alors, quand je suis... Dans quel état d'esprit? Bien sûr que j'étais... Je suis parti tout seul, hein, j'ai pris le train.
Pas de copains? Vous n'étiez pas cinq de la commune à partir ensemble?
On partait, peut-être à Château-Creux, on était, mais on allait à des endroits différents, non. Au 13e BCA, j'étais tout seul à aller là-bas. Donc, pas de copains, non. Je suis parti là-bas. Et puis, bon, je crois, bien sûr, il devait y avoir un changement à Lyon. À Lyon, ben, j'ai rencontré d'autres jeunes dans le train qui étaient comme moi, qui allaient à Chambéry. Donc, bon, on a causé, mais on se connaissait pas, quoi. Pas des copains, non. Et puis, voilà. Alors, bien sûr, c'était déjà la peur. Alors, bon, il y avait quand même cette épée de Damoclès de l'Algérie. Bon, ça nous enchantait pas, et puis quand même il y avait cette frousse, quoi, d'aller à l'armée, quoi, on disait, bon, qu'est-ce qu'on va trouver, comment ça va se passer, tout ça, donc c'était pas de gaieté de cœur, hein. Mais enfin voilà, il fallait y aller, quoi. La question, est-ce que t'as pas pensé à la désertion, ou à faire objecteur de conscience, ou... Non, cette question-là se posait pas, hein. Et puis, quand on regarde sur le nombre, sur les 7 années de guerre d'Algérie, le nombre de ceux qui ont fait objecteur de conscience ou qui ont déserté, il y en avait encore moins, mais bon, il y a eu peut-être quelques centaines, c'est possible, je ne sais plus. Mais bon, d'une manière générale, on partait faire notre service militaire.
Pas de question à se poser, quoi.
Oui, on peut dire pas de question à se poser, oui. Ouais, on peut dire ça.
Et à Chambéry, alors, ils vont font faire les classes?
Eh ben, à Chambéry, voilà, j'ai fait mes classes. Et je sais pas si on faisait le... j'avais fait à Lyon, là, quand j'avais 18 ans, les 3 jours, qui étaient obligatoires pour tout le monde. Et là, bon, ben, ils ont dû penser que j'avais des capacités pour faire le peloton, parce que personne ne m'a demandé mon avis, mais j'étais à Chambéry, dans la section qui était censée former des cadres.
Voilà. Sous-officiers.
Dessous, oui, voilà. Donc on faisait beaucoup de marches, hein, puisque c'était à l'automne, et quand j'ai terminé mes classes, c'était la période de Noël. Donc on marchait, voilà, on montait à la Croix du Nivolet, voilà, autour des lacs qu'il y avait là-bas. On plantait la guitoune, on creusait des trous,
Ça durait combien de temps?
4 mois.
4 mois.
4 mois.
Et un peu d'endoctrinement?
Bien sûr, on avait des films, bien sûr, on avait des films qui nous présentaient une Algérie très française, où la France avait fait beaucoup de belles choses, construit des maisons, développé l'agriculture, fait des routes, voilà, le chemin de fer, bon, tout ça, quoi, hein, enfin, c'était, voilà. Et puis, puis quand même, l'armée, donc on avait des films où on nous apprenait les rapports avec la population. Voilà, quoi, c'était... Enfin, là, à cette époque-là, maintenant, là, c'est un peu flou pour moi, je ne saurais pas trop vous donner de détails là-dessus, mais oui, un peu d'endoctrinement, oui, ça, il n'y a pas de doute, quoi. Hein. Pour l'armée, c'était naturel, c'était... Voilà, on nous expliquait ce qu'un bon soldat devait faire, voilà. Et on nous expliquait bien qu'on allait pacifier, que, voilà... On était dans une période un peu difficile, mais que ça allait s'arranger, qu'il fallait aller là-bas faire du maintien de l'ordre, aider les populations.
Pacifier, ça voulait dire qu'il y a des populations gentilles, puis il y a quelques terroristes méchants.
Exactement. Il y a des terroristes, et donc, il faut les combattre de telle sorte que la population puisse continuer à vivre pacifiquement. Voilà, c'était à peu près l'orientation de l'époque.
Je m'en reviens par le bateau des colonies. Les colonies, c'est un peu loin, mais c'est joli. Il y a du soleil.
Thank you.
bateau des colonies. Dans les chandries, j'ai un rencard avec mamie. Je l'ai jamais vue, mais les copains qui sont partis bras dessus, bras dessous, faut qu'elle soit bien puisque jamais on les a revus. J'en parlerai au capitaine.
Ainsi se termine cette première émission consacrée à Georges Goubier, un des 1 343 000 appelés du contingent qu'on envoya en combattre en Algérie. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes. Tout d'abord, la valse au long soupir, de et par Pierre Delorme, puis c'était Bandiera Nera la Vogliamo No, un chant italien, de résistance, interprété par Il Canzionere della Lame di Bologna. Puis c'était Les Mains d'Or, la composition de Bernard Lavillier qui l'interprétait. Ensuite, vous avez entendu François Béranger interpréter le morceau de Woody Guthrie, dont il a assuré la traduction, le blues parlé du syndicat. Puis c'était Jean Latreille qui, sur ses paroles et musiques, interprétait Papa Noël. Ensuite, vous avez entendu un extrait de Fidaou El Jazair, l'hymne du FLTD en l'honneur de Messali Hadj, un hymne écrit le 17 novembre 1936 par Moufdi Zakaria et Ababsa Abdelhamir. Puis, c'était Nadia Doti qui, sur des paroles de Minou et sur une musique de Cocheux, interprétait Debout les Zouaves. Et enfin, vous avez entendu les élèves de l'IRIS ENM interpréter la chanson de Léo Ferré, Pacific Blues. Nous remercions Georges Goubier et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission à lui consacrée, au fil de laquelle nous évoquerons les débuts de sa présence en Algérie. Bonsoir. Thank you.
Thank you.